exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au Burundi, un deuil national de 7 jours a été décrété pour rendre hommage au président Pierre Nkurunziza, décédé lundi officiellement d'une crise cardiaque. L'occasion, durant les 20 prochaines minutes, de revenir sur le parcours de cet homme qui disait avoir été choisi par Dieu pour diriger le Burundi. Une révélation divine qu'il aurait eue, dit-on, en 1995, lors de la guerre civile, lorsque, gravement blessé à la jambe, il a survécu pendant 4 mois dans des marécages. Révélation divine ou pas, en tout cas 10 ans plus tard, en 2005, Pierre Nkurunziza accède à la magistrature suprême. À l'époque, il incarne l'espoir. Les premières années, il fait construire plus de 5000 écoles. L'enseignement primaire est gratuit, tout comme les soins pour les moins de 5 ans. En 2010, il est réélu dans un climat tendu. L'opposition conteste l'élection. Ce sont les premières répressions, les premières exécutions extrajudiciaires. Et enfin, 2015, le tournant. Pierre Nkurunziza impose son troisième mandat. Il dirige alors le Burundi d'une main de fer. Le pays plonge dans une crise politique profonde et violente. Pierre Nkurunziza qui, rappelons-le tout de même, c'est important, a fait le choix de ne pas se représenter une quatrième fois. Il devait diriger le pays jusqu'au 20 août. Il est décédé lundi. Que retiendrez-vous de ces 15 années de présidence? Quelle image garderez-vous de ce professeur d'éducation devenu chef rebelle, puis chef d'État? 33 9 693 693 60 10. Comme tous les matins, je lirai quelques-uns des commentaires postés sur Facebook, des commentaires reçus sur WhatsApp. Mais d'abord, priorité à ceux qui nous appellent, ceux qui souhaitent prendre la parole sur RFI. On va donner la parole d'abord à Jean-Michel, qui est sur place. Il est à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous disiez au Standard, qui peut regretter Pierre Nkurunziza?
C'est tout le monde, parce qu'il vient de passer 15 ans au pouvoir. Les premières années, c'était bien. Mais après, je crois que ça a été un désastre avec le troisième mandat où ça a causé des ennuis, où beaucoup de gens se sont réfugiés. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui avait accédé au pouvoir par les élections, par la voix des urnes. Ça a daté de 1993. Mmh. Alors, avec, c'est quelqu'un qui a été le fruit du consensus électoral. C'est un fruit des négociations, des pourparlers entre les mouvements rebelles et l'armée régulière, qui a dirigé le premier mandat d'une façon régulière et oui, qui a développé le pays. Mais après, avec son troisième mandat, ça a été une désastre parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors je crois que c'était pas le bon moment qui passe. Je crois qu'il y avait plein de choses à faire parce que tout le monde regardait parce qu'il y avait son dauphin, parce oui, que c'est pas candidat, c'était pas une rupture, parce que c'est Evariste Ndayishimiye, c'est un candidat de la continuité. Il fallait qu'il reste pour que ce qui n'a pas été bien, parce que il faut savoir que le troisième mandat a été un désastre pour le Burundi. Il y a des milliers de réfugiés au Burundi.
Oui. Je crois que 400 000. Rappelons, selon l'ONU, ce sont les chiffres officiels, 400 000 Burundais contraints à l'exil à partir de 2015, après cette pression de Nkurunziza pour imposer un troisième mandat. Comment expliquez-vous, Jean-Michel, qu'il ait incarné l'espoir? Et que 10 ans plus tard, il incarne la dérive autoritaire. Que s'est-il passé?
Mais ce sont les deux, parce que au premier mandat, il incarnait de l'espoir, et dans d'autres mandats qui ont suivi, et il incarnait un peu du mécontentement du peuple burundais. C'est-à-dire que c'est très tôt, parce qu'il y avait d'autres choses qui devaient régler, et peut-être que d'autres personne avait besoin de lui pour lui demander d'autres choses. Je crois que c'est hanté.
Allô? Ah, on a perdu Jean-Michel. Déjà que la ligne téléphone n'était pas très bonne, et on s'excuse pour la qualité du réseau téléphone. On essaie de rappeler tous ceux qui nous contactent du Burundi. Quand ça passe, le réseau est mauvais. Mais on a envie de vous entendre, c'est normal, vous êtes sur place. Dodi, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
À Kinshasa, en République démocratique du Congo, quelle image garderez-vous de Pierre Nkurunziza?
Alors, Pierre Nkurunziza, l'image que nous gardons de lui, moi personnellement, c'est l'image de quelqu'un qui a dirigé le Burundi d'une main de fer, donc un dictateur qui a fait 2 mandats, mais il faut rappeler qu'il a fait eu
3 mandats, excusez-moi Dodi de vous corriger.
Oui, les premiers deux mandats qui étaient, on va dire, légaux. Alors, comment il a accédé au pouvoir? Il est venu à la suite d'une rébellion qu'il a d'ailleurs commencé, je dirais, ici, dans notre pays, en République démocratique du Congo, à la suite des accords de Arusha. Il accède au pouvoir à travers des élections et au terme de son deuxième mandat, il insiste pour faire le troisième mandat qu'il fait, mais ça crée des violences énormes au niveau du Burundi et bien entendu, la population se réfugie dans les pays voisins et toute la région des Grands Lacs était affectée par sa gestion du Burundi. Donc on n'a pas une très belle image de lui, quelqu'un qui a été un dictateur. On se rappelle même parmi ses passions, il y a le football, on sait comment il se comporte également lorsqu'il joue au football. Donc c'est pas vraiment une très belle image qu'on a de Pierre Nkurunziza.
Ouais. Le nouveau président changera-t-il la donne? Est-ce que ce décès qui a surpris tout le monde, la prestation de serment du futur, du nouveau président dans les prochaines semaines, est-ce que vous pensez à une ouverture politique aujourd'hui en Burundi ou pas du tout?
Bon, je l'espère, mais vu l'antécédent de ce nouveau président, Evariste Ndayishimiye, je crois, qui est un général à la retraite, je suis un peu sceptique. Mais on va voir comment les choses vont se passer, vu que Nkurunziza a été désigné guide suprême du Burundi n'est plus, peut-être que son ombre ne sera pas là pour le gêner, on va voir comment il va se comporter, mais je suis un peu perplexe, on sait comment les anciens généraux se comportent ici en Afrique.
Donc pour résumer votre analyse, Dodi, oui, un nouveau président, mais avec un ancien régime, c'est-à-dire le changement dans la continuité. On va donner la parole à Yves, qui nous appelle justement de Bujumbura, la ligne téléphone, on me dit, est plutôt bonne. Bonjour Yves.
Bonjour Juan et bonjour à tout le monde.
Merci de nous avoir appelé Yves. Vous êtes attristé par la mort de Pierre Nkurunziza?
Oui, effectivement, je suis attristé par ce décès. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la famille biologique, à sa famille politique et à tout le peuple burundais. Et ce qui m'attriste, c'est vraiment c'est un décès qui a surpris presque tout le monde. Et moi, en tant que Burundais, ça m'a vraiment touché.
Ouais. Il va vous manquer, Yves?
Bien sûr, il va me manquer parce que je dirais que il était au point de développement du pays. Il a vraiment su faire respecter le peuple burundais envers la communauté internationale, chose que peu de présidents ont pu faire sur Burundi.
Mais enfin, Yves, excusez-moi, vous êtes mieux placé que moi, évidemment, pour réagir, mais vous dites qu'il a contribué au développement du pays. 75% de la population, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Oui, c'est vrai, même s'il y a beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont visibles et qui sont palpables. Par exemple, il a pu renouveler plus de 5 routes nationales et beaucoup des hôpitaux, dont l'hôpital de Karuzi, qui lui a accueilli pendant ces derniers moments. Oui. Il y a eu beaucoup d'universités qui ont été construites, des universités communales, beaucoup de classes, de salles de classe. Et là, je donnerai des chiffres. Par exemple, en 14 ans, il a pu construire plus de 5000 écoles.
Oui, 5000 écoles, c'est le chiffre qui est revenu. Il y a Moïse qui nous écrit sur Facebook du Burundi, je ne sais pas dans quelle ville, mais il nous dit « Aujourd'hui, grâce à Pierre Nkurunziza, le pays peut se targuer d'avoir une école et un dispensaire sur chaque colline. Le Burundi perd l'un de ses fils les plus laborieux », affirme Moïse sur les réseaux sociaux. Yves, vous disiez également « Il respectait le peuple ». Je vous lis le commentaire d'Ayao, il est à Lomé, au Togo. Son régime a tué, emprisonné, chassé et maltraité les opposants, fermé des radios privées, emprisonné des journalistes. Quel bilan voulez-vous qu'on retienne de ces 15 années de gouvernance? Ce fut catastrophique, écrit cet auditeur de Lomé, catastrophique en lettres majuscules. Qu'avez-vous envie de lui répondre, Yves?
Je lui dirais que dans la politique, il doit y avoir des, je dirais, des victimes, mais c'est pas beaucoup par rapport à ceux qui sont restés au pays. Et à mon avis, je dirais que au sens large de ces mesures négatives, il a pu unir les ethnies, les deux ethnies Hutu et Tutsi ici au Burundi. Mmh. Et aujourd'hui, on voit que les conflits entre les deux ethnies ne sont plus la guerre. Celui qui n'est pas aveugle, il peut le constater.
Ouais, il y a eu tout de même, excusez-moi, vous dites c'est peu, mais il y a eu 1400 morts. Ce sont les derniers chiffres qui remontent à 2019, il me semble, 2018, hein, le décompte, si vous me permettez l'expression, a été interrompu à partir du moment où le pays s'est replié sur lui-même, et difficile à partir de ce moment-là d'avoir des chiffres bien précis. Merci Yves de nous avoir appelé. 33 9 693 693 70. Salimata affirme n'avoir aucune compassion pour les assoiffés de pouvoir qui tuent leur peuple, tripatouillent les constitutions, installent le clanisme et le favoritisme pour se maintenir sur le dos de la population. André, lui, retient surtout le fait que Pierre Nkurunziza a tout de même laissé le pouvoir à son dauphin, alors qu'il aurait pu s'éterniser au pouvoir comme la plupart de ses homologues. Effectivement, constitutionnellement parlant, Pierre Nkurunziza aurait pu rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Que retenez-vous de Pierre Nkurunziza ?
Oh ben, le guide suprême du patriotisme s'en est allé comme il est arrivé, hein. Je n'ai vraiment pas, il y a quelqu'un qui parlait de compassion tout à l'heure, je n'en ai pas beaucoup. Parce que nous avons quand même 400 000 Burundais qui sont dehors, jetés, par Monsieur Nkurunziza. Quand j'entends son compatriote nous raconter qu'il a construit 5 000 écoles, réhabilité 5 routes, vraiment, j'ai presque envie de lui dire, mais mon cher ami, si ce n'est que ça, hein, quand on commence à faire le décompte comme ça, on est loin, loin, loin du compte. Hein. Il a quand même fait 15 ans au pouvoir. Si c'est pour nous compter 5 000 écoles, je ne pense pas que ce soit quelque chose de formidable. Ouais. Alors donc, moi, pour moi, Nkurunziza, c'est quelqu'un, c'est un despote qui s'en va, comme il est arrivé, il part par la petite porte.
Enfin, mais il est pas, excusez-moi, vous dites qu'il part par la, il part comme il est arrivé. Il n'est pas arrivé par la petite porte, Pierre Nkurunziza.
Non, il n'est pas arrivé par la petite porte. Les accords d'Arusha son deuxième mandat, les premières années de son deuxième mandat, ça a été des années où il aurait pu faire mieux que ce qu'on attendait de lui. Or, quand on voit avec quel acharnement il a voulu rester au pouvoir pour faire un troisième mandat, et le nombre de morts, vous l'avez cité tout à l'heure, 1400 morts, et ça avant que le Burundi ne se confine, ouais. Mais il y en a eu, hein.
Ambroise.
Il y en a eu, donc, monsieur...
Ambroise.
Je déplore le cas d'un gars comme Agathon Rwasa, qui voulait se montrer comme opposant, mais finalement, il a joué le jeu de Nkurunziza.
Bah, il a joué le jeu... pourquoi dites-vous qu'il a joué le jeu?
Oh, ben, vous savez, un vrai opposant, oui. Je crois qu'il y a eu de véritables oppositions à M. Nkurunziza. Il a pensé jouer en essayant de faire des contours, mais il vient encore de le payer là avec l'élection. Il n'est pas réélu.
Donc à vous entendre, il n'aurait pas dû être candidat à l'élection présidentielle.
Pardon ?
À vous entendre, l'opposant n'aurait pas dû briguer la magistrature suprême. En mai dernier, il aurait dû boycotter.
Il savait très bien ce à quoi il s'en tenait. Il y allait un peu comme un cabri qui va à l'abattoir.
Bon, Ambroise, je vous interromps. Il y a beaucoup d'auditeurs. Merci infiniment de nous avoir contactés. Je voulais vous présenter Daniel, mais je vous le présente quand même. Mais je voulais que vous puissiez dialoguer ensemble. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Vous êtes Burundais, vous êtes à Maastricht, donc vous êtes aux Pays-Bas. Vous racontiez au Standard, vous avez longuement parlé hein, avec nos équipes au Standard. Vous avez fait partie du système vous-même, Daniel, puisque je ne trahis pas un secret, vous l'avez dit, vous avez été conseiller spécial puis porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est bien ça ?
Oui, c'est correct.
C'est correct, et vous avez à un moment donné décidé de quitter le pays à partir de 2015. Qu'aviez-vous envie de raconter aux auditeurs ? Sur quoi avez-vous envie d'insister ce matin ?
Non, j'ai été contacté par votre collègue
oui.
qui m'a demandé ce que je pouvais partager à propos du bilan du président Nkurunziza. C'est, de mon côté, j'ai dit que Le président Nkurunziza quand même laisse un bilan volumineux et lourd, lourd de conséquences, parce que la gestion du pays, la gestion des relations extérieures du Burundi, et tout a été chambardé, on peut dire. Parce que c'est une gestion d'un groupe de mafia. Oui, il a fait beaucoup de choses en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de violation de droits de l'homme, en termes de personnes disparues, de personnes tuées froidement et de personnes qui ont dû fuir le pays.
Et vous-même,
moi, je suis revenu en Europe.
Vous-même, vous avez. Oui, justement.
Non, je ne dirais pas que j'ai fui. Moi, je suis revenu en Europe parce que je ne supportais pas, c'est tout. Mais bien sûr, il y avait la tension, il y avait l'insécurité. Mais je n'étais pas opposé à son troisième mandat parce que j'estimais que le mandat n'était pas opportun, mais qu'il pouvait être légal.
Ses opposants sur les réseaux sociaux regrettent qu'il soit mort, qu'il soit parti sans être jugé. C'est un regret que vous formulez également ou pas?
Mais devant quelle justice?
Voilà, la question se pose également. On sait que la Cour pénale internationale avait ouvert une enquête sur les crimes commis au Burundi. Depuis, le Burundi s'est retiré de la CPI. Mais un procès serait utile ou pas? Aurait été utile ou pas, Daniel?
Mais ce qui importe pour le Burundi, ce n'est pas cette mascarade de justice internationale. Ceux qui parlent de ça ont leurs intérêts et qui ont été bafoués par la résistance. Et qu'il faut saluer du président Nkurunziza envers l'impérialisme. Mais dire qu'on doit le juger, qu'on devait le juger à l'étranger, ce que le Burundi veut, c'est que la vérité soit dite sur tous les crimes qui ont été commis, sur les responsabilités, parce que c'est ça qui encourage que les gens se parlent, que les gens avancent vers la réconciliation, mais en sachant la vérité. C'est ça ce que les Burundais ont choisi depuis Arusha.
Merci Daniel. À Maastricht, aux Pays-Bas, sur Facebook, Baenda, on retiendra de lui un président qui, par l'entremise de sa milice, les Imbo-Rhénakouré, n'a cessé de persécuter et de tuer ses opposants. Mohamed, bonjour.
Bonjour Wad, bonjour à vos milliers d'auditeurs.
À Conakry, en Guinée, il n'y a pas d'image positive pour un président comme Nkurunziza. Je cite vos propos.
Exactement, Juan. Aujourd'hui, on peut dire que la mort de Pierre Nkurunziza, c'est une mort dans la réjouissance. Parce que quand on prend ce bilan négatif, n'est-ce pas, de Pierre Nkurunziza durant, n'est-ce pas, son troisième mandat, c'est un bilan très mitigé. Quand on prend, n'est-ce pas, le nombre de morts lors des manifestations contre le troisième mandat en 2015, retenez bien, 450 morts, 450 Burundais qui sont tombés sous les balles assassines d'un président qui avait l'intention, n'est-ce pas, de briguer un troisième mandat. Contre la volonté, n'est-ce pas, de ses compatriotes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le pays est retiré dans la main d'un dictateur par la divinité, parce que lui-même il disait que le pouvoir c'était une divinité pour lui de venir à la tête du pays.
Je dis aujourd'hui, il disait avoir été choisi par Dieu pour diriger le Burundi.
Alors aujourd'hui, il est aussi choisi par Dieu pour retirer le pouvoir dans sa main. C'est ce que je conclue à la fin. Parce que un président, il avait bien commencé, quand on prend les deux premiers mandats, il avait commencé à poser les jalons d'un développement véritable. Mais on s'attendait qu'il allait, n'est-ce pas, laisser le pouvoir, organiser les élections libres et transparentes pour qu'un autre vienne continuer ses travaux.
Donc pour vous, l'élection de 2010 mérite d'être contestée?
Si je comprends bien.
Oui, d'accord. Elle a été contestée à l'époque par l'opposition, élection organisée, rappelons-le, par le gouvernement, alors que celle de 2005, elle avait été organisée par les Nations Unies. Le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion de revenir demain sur le parcours de Pierre Nkurunziza. Demain, vendredi, la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. Ça ne vous a pas échappé que depuis le début de la semaine, en première partie d'émission, on a repris la formule habituelle avec vos questions à la rédaction. Mais sachez que le vendredi, en première partie de la Libre Antenne, vous pourrez évidemment témoigner sur les mesures prises dans vos pays face à la pandémie de coronavirus. Comment vous organisez-vous? Certains pays ont assoupli les mesures, d'autres les ont renforcées. Parlez-nous des conséquences dans votre vie quotidienne. Prenez soin de vous et à demain. Caroline Paré, bonjour.